Alors, est-ce que vous croyez au bonheur? Est-ce que vous croyez au bonheur? Et si vous croyez au bonheur, comment est-ce que vous vous représentez le bonheur? Et je ne doute pas que nous tous ici présents, on a des désirs profonds. Des désirs profonds, plus ou moins secrets, plus ou moins légitimes d'ailleurs, plus ou moins honorables. Des désirs profonds qui concernent notre vie, notre avenir, la vie que nous pourrions qualifier d'idéale en ce qui concerne notre vie future. Et pour moi, je ne vais pas vous dévoiler tous les secrets de mon cœur, mais au moins ceux qui sont dévoilables, je vais vous les dire. Mon désir pour ma vie idéale, ce serait habiter dans une grande villa sur le flanc d'une montagne, avec une vue imprenable sur la chaîne des Écrins, le mont Pelvoux par là, les Agneaux par là-bas à droite, avec bien sûr une piscine chauffée. Bien sûr, j'y habiterai avec ma femme et mes enfants autour de moi. Je pourrais faire plein d'escalades l'été, plein de ski de randonnée l'hiver. Je pourrais manger des raclettes et des fondues savoyardes tous les jours. Je pourrais jouer à des jeux de société tous les soirs, regarder des DVD sur un grand écran plat quand il fait pas beau dehors. Voilà, la belle vie, quoi. Voilà, ça, c'est la vie idéale pour moi. Le bonheur. Mais pour que ce soit possible, il faudrait que j'aie un métier qui rapporte beaucoup, mais qui en même temps n'exige pas trop de travail, un métier qui pourrait me permettre de faire plein d'économies et prendre ma retraite, disons, vers l'âge de 35 ans. Ça serait l'idéal, non? Peut-être que vous avez des désirs similaires ou des désirs du même ordre, mais peut-être pas à la montagne, peut-être plutôt à la plage, sur une île déserte, sur la lune, j'en sais rien moi, vous êtes peut-être un peu bizarre hein, aussi, je sais pas. Et franchement, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas envie de réussir sa vie? Tout le monde a envie de réussir sa vie. Et c'est cette envie de réussir qui motive beaucoup de nos choix. D'ailleurs, généralement, quand on est assez jeune, le choix de nos études, le choix de notre future profession, le choix de notre conjoint, le choix de notre lieu d'habitation, souvent ce sont ces désirs profonds qui vont conditionner un peu ces choix, en tout cas notre désir de réussir. D'avoir une vie réussie, quoi, pas une vie de loser, une vie de winner, d'accord? Donc, ben peut-être qu'il n'y a que moi hein, qui suis comme ça ici, hein, dans ce cas, cette prédication est pour moi. Mais combien de gens prennent toutes ces grandes décisions dans la vie avec ces mêmes espoirs, ces mêmes grandes intentions, ces attentes formidables, peut-être même avec une certaine impatience? Oh pétard, j'ai vraiment hâte d'y être de ce jour où je prendrai ma retraite à 35 ans et que je pourrai habiter dans mon chalet dans la montagne. Combien de gens prennent ces décisions dans la vie et finissent pourtant par être profondément déçus et désabusés? Le retour sur Terre est parfois douloureux. Regardez-moi. J'approche des 35 ans. Et à part le fait d'avoir une femme merveilleuse, des enfants formidables, ben je suis franchement assez loin d'avoir réalisé mon rêve d'une vie pépère à la montagne. Est-il possible alors malgré tout de réussir sa vie? Ou est-ce que c'est une illusion, une chimère? Est-ce qu'il est possible quand même de réussir sa vie? C'est la question, à mon avis, qui est indirectement posée par le texte qu'on est sur le point de lire. Et vous allez voir, ce texte présente quand même une bonne nouvelle extraordinaire. Et cette bonne nouvelle, c'est que oui, le bonheur est possible. Et si je dis que le bonheur est possible, c'est pas moi qui l'invente, parce que Dieu le dit dans ce texte, vous allez le voir. Dieu dit que le bonheur est possible. Et l'idée principale de ce texte, qu'on est sur le point de lire et ensuite d'étudier, c'est la suivante. Ouvrez grand vos oreilles. Le Dieu de la Bible est au centre d'une vie réussie. Le Dieu de la Bible est au centre d'une vie réussie. Autrement dit, vous voulez réussir votre vie, ok, c'est bien, Dieu doit être en son centre. Autrement, il n'y a aucune chance de réussir sa vie. Et donc, on lit le psaume 128. Et on va voir comment ce texte nous fait comprendre ce message qui, en définitive, est assez simple. Hein. Lisons donc. Psaume 128, un cantique des montées. Heureux quiconque craint l'Éternel et marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux. Tu prospères, ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion. Et tu contempleras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils que la paix soit sur Israël. Avant de continuer, prions. Nous te remettons, Seigneur, ces moments où nous allons étudier ta parole pour que tu les rendes fructueux, Seigneur. Par l'action de ton esprit, nous te prions, Seigneur, de nous aider à comprendre et à retenir tout ce que tu veux nous communiquer aujourd'hui. Et applique-le, s'il te plaît, par ta puissance à notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Alors, le Dieu de la Bible est au centre d'une vie réussie, premièrement, parce que Dieu, déjà, est la clé du bonheur domestique, du bonheur familial, du bonheur à la maison. Est-ce que vous aimeriez pas être la personne dont il est question au verset 2 et 3 de ce texte? Jouir du travail de vos mains, être heureux, prospérer, avoir une femme, si vous êtes un homme, hein, une femme qui est comme une vigne féconde dans l'intérieur de votre maison, avoir des enfants qui sont comme des plants d'olivier autour de la table. Il s'agit ici de quelqu'un qui aime son travail, il a une profession qui l'aide à s'épanouir, une profession fructueuse, il réussit dans ses projets, il gagne l'argent qu'il faut pour mettre du pain sur la table, il a une vie de couple formidable, sa femme, elle est comme une vigne dans sa maison, il la regarde et elle est pleine de grappes, de raisins, juteux, c'est merveilleux. Et puis ses enfants sont bien élevés, quand il les regarde assis autour de la table au moment du dîner, ils sont comme des oliviers, des petits oliviers. Alors nous, il se trouve qu'on revient d'Espagne, on était en Espagne la semaine dernière, et je ne sais pas si vous avez déjà été dans le sud de l'Espagne, mais il y a des régions couvertes sur des centaines d'hectares de champs d'oliviers. Les oliviers, c'est très beau comme arbre, c'est très esthétique. Mais ce qui est particulier en ce qui concerne les plants d'oliviers, c'est que quand on les cultive, ils sont plantés mais en rangée parfaite. Sur des centaines et des centaines de mètres, c'est très impressionnant. Et donc, ce gars-là, il regarde ses enfants assis autour de la table, et ils sont super bien élevés. Ils sont super bien assis à table, bien droits, bien alignés, comme des plants d'olivier dans un champ. C'est ça la comparaison. Quel est son secret à ce gars-là pour avoir une vie domestique pareille? Quel est son secret? La réponse, nous est donnée dans le texte. Verset 1. Cette personne-là craint l'Éternel et marche dans ses voies. Autrement dit, c'est quelqu'un qui a confiance en Dieu. Ça, c'est ce que ça veut dire, craindre l'Éternel. Avoir confiance en Dieu. Mais comme si ça, c'était pas suffisant, elle précise ce que ça veut dire exactement, une vraie confiance. Elle craint l'Éternel et elle marche dans ses voies. Autrement dit, elle a confiance en Dieu au point de faire ce que Dieu lui dit. Si vous avez confiance en quelqu'un et que cette personne vous dit de faire quelque chose, et que vous ne le faites pas, c'est que vous n'avez pas vraiment confiance, on est d'accord? La vraie confiance en quelqu'un, une confiance totale, c'est se dire, je vais me fier à ce que cette personne me dit. Donc, la personne qui craint l'Éternel, vraiment, c'est celle qui marche dans ses voies. Avoir confiance en Dieu au point de faire ce que Dieu nous dit. Pourquoi est-ce qu'on serait heureux à faire ça? Pourquoi est-ce qu'on serait heureux à faire confiance à Dieu au point de faire ce qu'il nous dit? Tout simplement, parce que c'est Dieu qui a inventé le travail, le couple, la famille, les enfants, la sexualité. Tout simplement, l'être humain avec toutes ses fonctions et ses capacités. Et donc, si Dieu vous a inventé, est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait avantageux de suivre ses conseils? Les conseils de celui qui vous a inventé, qui vous a donné toutes vos fonctions et vos capacités en tant qu'être humain. Alors, vous savez ce que c'est qu'une peinture par numéro? Je ne sais pas si ça se fait beaucoup encore de nos jours. Ce sont ces motifs qui sont dessinés en noir et blanc, comme un paysage, ou un animal, ou un pot de fleurs, enfin, une voiture, peu importe. Et ce motif est divisé en petites zones, d'accord, chacune portant un petit numéro, noir et blanc. Et chaque numéro correspond à une couleur précise. Alors vous vous référez à un papier séparé qui vous dit petit, le numéro 1 c'est du jaune, le numéro 2 c'est du bleu, le numéro 3 c'est telle couleur, etc. etc., etc. Vous avez toute une palette de couleurs qui correspondent à des numéros différents. Et donc quand vous allez prendre votre pinceau et votre aquarelle, vous allez remplir ces petites zones selon les numéros qui leur sont attribués. Eh bien, à force de méticulosité, à force de patience, vous allez obtenir à la fin un magnifique tableau. Mais des fois, on obtient des tableaux qui ressemblent à des tableaux de maître, des trucs impressionnants. Et notre vie en tant qu'être humain, elle est comme une peinture par numéro. Elle a été conçue par quelqu'un, notre vie, et elle vient avec des instructions, petit feuillet à part, afin qu'on sache quoi en faire de notre vie et comment en tirer le meilleur. Et le problème, c'est que la plupart du temps, et la plupart d'entre nous, c'est ce que nous faisons. À quoi est-ce que nous passons notre temps? Nous passons notre temps à gaspiller notre vie. C'est comme si on prenait ce canevas avec ce magnifique motif dessiné méticuleusement, mais en noir et blanc avec les petits numéros, et qu'on le prenait et qu'on l'utilisait comme du papier brouillon, ou pire, comme du papier toilette. Mais c'est ça la réalité de ce qu'on fait avec notre vie bien souvent. Elle n'est pas destinée à ça, notre vie. C'est du gâchis d'agir ainsi. Dieu est la clé du bonheur domestique parce que c'est lui qui a inventé l'être humain, le travail, le couple, la sexualité, la famille, etc., etc. Il en est le concepteur, l'inventeur. Et donc, si vous avez confiance en Dieu au point de faire ce qu'il dit, vous pouvez être heureux au travail, par exemple. Parce que même si c'est un travail pénible que vous avez, peut-être un travail ennuyeux, vous allez quand même le réaliser, ce travail, en suivant les instructions du Seigneur. C'est-à-dire, vous allez travailler de toute votre âme, comme pour le Seigneur, pour reprendre une expression de l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament. Vous allez, en travaillant, rendre grâce par Jésus à Dieu le Père, pour reprendre une autre expression de l'apôtre Paul. Autrement dit, vous allez être appliqué à votre travail, honnête dans votre travail et reconnaissant pour votre travail. Vous allez être épanoui dans votre travail, même s'il est pénible ou ennuyeux. Parce que vous faites confiance à Dieu au point de faire ce qu'il vous dit dans ce domaine. Si vous avez confiance en lui au point de faire ce qu'il dit, vous pouvez aussi être heureux dans votre mariage, dans votre vie de famille, parce que, messieurs, vous allez, dans ce cas, aimer votre épouse d'un amour sacrificiel, vous allez la respecter, vous allez l'écouter, la chérir, la protéger, lui pardonner, vous allez l'honorer devant les autres, vous n'allez jamais lui faire douter qu'elle est l'unique objet de votre désir. Pourquoi vous allez faire ça? Parce que c'est ainsi que Dieu vous demande d'aimer votre épouse. Et si vous lui faites confiance au point de faire ce qu'il vous dit, vous allez être heureux dans votre relation avec votre épouse. Et mesdames, à votre tour, vous allez aussi aimer votre mari, le soutenir fidèlement, le respecter, l'encourager, lui faire confiance, lui pardonner. Vous allez être, bref, une vigne féconde à l'intérieur de la maison. Parce que vous faites confiance à Dieu au point de faire ce qu'il vous dit. Vous le craignez et vous marchez dans ses voies. Et puis si vous lui faites confiance au point de faire ce qu'il vous dit, il y aura aussi une bonne ambiance dans la maison et autour de la table parce que vous allez élever vos enfants en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur, pour reprendre encore une fois une expression biblique de l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament. Vous allez leur inculquer les paroles de Dieu, vous allez parler des voies de Dieu quand vous serez à table, à la maison, en voyage, au lever et au coucher, comme nous le dit la Bible, hein, comme la Bible nous dit de le faire. Et ces paroles seront, pour ainsi dire, écrites sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Ça, c'est une expression de Moïse dans l'Ancien Testament. Et donc, il y aura une bonne ambiance à la maison. Et donc, le principe que nous livre le psalmiste au début de ce psaume, c'est que si vous faites confiance à Dieu au point de faire ce qu'il vous dit, eh bien, vous verrez. Ce sera, théoriquement, comme remplir ces petites zones numérotées avec les couleurs appropriées. Et à force de méticulosité et de patience, vous allez voir apparaître un tableau magnifique et harmonieux. Mais si vous êtes comme moi, vous êtes en train de vous dire, c'est bien beau tout ça, mais qui est capable d'être fidèle à ce point? Qui est capable de remplir toutes ces petites zones détaillées de ce tableau sans se tromper, sans dépasser, sans déborder, sans froisser le papier, sans renverser l'aquarelle sur la toile? Qui est capable d'être fidèle à ce point? La théorie, c'est bien beau, mais la pratique, c'est bien autre chose. Qui est capable? Comment faire? Est-ce que c'est possible? Et vous avez raison de soulever cette objection. Vous avez raison, parce que la réalité, c'est que moi, j'en suis pas capable. Et vous n'en êtes pas capable, vous non plus. C'est trop dur. C'est un travail trop difficile, trop méticuleux. Alors, le texte de ce psaume n'est-il que du vent? Est-ce que le psalmiste, il est en train de nous narguer, là, dans ses premiers versets? Heureux celui qui craint l'Éternel, mais sauf que vous n'y arriverez jamais. Est-ce qu'il est en train de... Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, regardons attentivement la deuxième partie du psaume. Et ce qu'on apprend dans la deuxième partie du psaume, c'est que le bonheur domestique qui vient d'être décrit, hein, qui nous est présenté au verset 2 et 3, qui est destiné à l'homme qui craint l'Éternel, ce bonheur provient d'une source précise. Et cette source, et c'est ce qui nous est dit explicitement dans la deuxième partie du psaume, cette source n'est pas nous-mêmes. Ce bonheur découle d'une bénédiction de Dieu. C'est Dieu qui te bénit Et cette bénédiction elle-même provient d'un lieu précis, nous dit le psaume, de Sion. Sion, si vous ne le savez pas, c'est le nom de la colline sur laquelle la ville de Jérusalem était construite, et où il y avait au milieu le temple de Jérusalem, le temple des Juifs. Alors, je ne veux pas paraître trop subtil ici, mais je veux quand même que vous compreniez une chose, c'est que pour les Israélites, cette affirmation, toute simple, « L'Éternel te bénira de Sion », est très riche de sens. Très riche de sens, parce qu'elle réunit trois mots qui évoquent à la fois l'auteur de l'Alliance, Yahvé, l'Éternel, l'objet de l'Alliance, c'est-à-dire la bénédiction du peuple, et le moyen de l'Alliance, c'est-à-dire Sion, le temple, le lieu, le centre de gravité géographique de l'Alliance, qui représente la médiation des prêtres qui a lieu dans ce lieu unique qu'est le temple de Jérusalem. Donc c'est du lourd, hein, c'est une affirmation courte, mais la portée est extrêmement significative pour quelqu'un qui est imprégné de la culture de l'Ancien Testament. Et donc, pour aller droit au but, sans se perdre dans toutes sortes de détails théologiques, ce qu'on voit ici, c'est que quelqu'un qui craint l'Éternel, c'est quelqu'un qui non seulement a confiance en Dieu au point de faire ce que Dieu lui dit, mais c'est quelqu'un également qui a confiance en Dieu au point de recevoir ce que Dieu lui offre. Et d'après les promesses de Dieu, contenues, présentées, expliquées dans toute la Bible, ce que Dieu nous offre, c'est ni plus ni moins que la vie à laquelle nous aspirons au plus profond de nous-mêmes, peut-être sans nécessairement nous en rendre compte, mais la vie à laquelle nous aspirons au plus profond de nous-mêmes, c'est le pardon complet de nos fautes, c'est à ça que nous aspirons au plus profond de nous-mêmes, le pardon de nos fautes, la délivrance du mal et de la mort, la consolation de toutes nos souffrances et toute ressource nécessaire pour réussir sa vie. Est-ce que ce n'est pas ça auquel vous aspirez au plus profond de vous-même? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être plus important pour vous? Un besoin que vous pourriez juger comme étant plus important que celui que je viens de décrire? À savoir le pardon complet, définitif, total, suffisant de toutes vos fautes. La délivrance du mal et de la mort, la consolation de toutes vos souffrances, et en plus de ça, toute ressource nécessaire pour affronter la vie et réussir. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus important? Quelqu'un a une proposition, une suggestion? Et c'est ça qui constitue le bonheur de Jérusalem dont il est question là. C'est ça qui constitue la paix d'Israël dont il est question dans les derniers versets de ce psaume. C'est ça qui constitue l'objet de toutes les promesses de l'Alliance que Dieu a faites à son peuple depuis le début, depuis qu'il a commencé à se révéler à lui. Et bref, le Dieu de la Bible est au centre d'une vie réussie, non seulement parce que Dieu est la clé du bonheur domestique, mais aussi parce qu'il est la clé du bonheur tout court. Dieu est au centre d'une vie réussie parce qu'il est la clé du bonheur tout court. Pour que ce bonheur, le vrai, nous soit accessible, Dieu l'a acquis pour nous, à notre place. Il a fait ce qu'il fallait pour nous l'offrir. Il l'a fait à un très grand prix, au prix de son propre Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort sur la croix, à la place de gens fautifs et indignes, coupables, comme vous et moi. Mort, lui le juste, pour des injustes, pour les injustes que nous sommes. Il a payé le prix. La Bible dit qu'en faisant cela, Jésus a payé pour nos fautes, à notre place, afin que nous puissions être en paix avec Dieu, réconciliés avec notre Créateur, celui qui a conçu cette peinture par numéro. Et la Bible ajoute que Jésus est ressuscité comme gage de sa victoire, définitive aussi et totale, sur le mal, comme gage de sa suprématie sur toute sa création, sur tout l'univers, tout ce que vous voyez autour de vous, toutes les étoiles que vous voyez dans le ciel la nuit, et même celles que vous ne voyez pas. Il est suprême sur toutes ces choses. Et aujourd'hui, le Seigneur Jésus, ressuscité qu'il est, monté auprès du Père, il continue d'intercéder pour nous les croyants, il nous prépare une place auprès de Dieu. Et selon sa promesse, Dieu a donc fait tout ce qu'il fallait pour réaliser notre bonheur, pour que nos fautes soient pardonnées, pour que nous soyons délivrés du mal et de la mort, pour que nous soyons consolés de toutes nos afflictions. Et pour que nous soyons équipés à tout point de vue pour affronter la vie et réussir. Mais quand je parle de réussir sa vie, je ne parle pas de réussir sa vie selon nos critères de réussite. Je ne parle pas d'une villa à la montagne. Je ne parle pas d'une piscine chauffée. Je ne parle pas d'un écran plat. Je ne parle pas de raclette et de fondue tous les soirs. Je parle des critères de réussite qui sont ceux de Dieu et qui sont les seuls valables, qui sont les bons, les meilleurs. Est-ce que vous avez confiance en Dieu au point de recevoir ce qu'il vous offre? Et vous savez ce qu'on dit aux enfants. N'accepte rien de la part d'un inconnu. N'accepte pas de cadeau de la part de quelqu'un que tu ne connais pas. Et il est peut-être possible que pour certains d'entre vous, le Dieu de la Bible soit un inconnu. Et dans ce cas, vous n'êtes pas enclin à recevoir ce qu'il vous offre. Et c'est normal, franchement. Peut-être que vous ne comprenez pas exactement ce que c'est qu'il vous offre. Tout ce que je peux faire, c'est vous encourager à le découvrir, à découvrir ce que Dieu vous offre, notamment à travers la lecture de la Bible. J'espère que vous en avez une, sinon, vous savez, on en a, hein, les Bibles blanches avec le titre rouge. Vous pouvez en prendre une gratuitement avec vous, l'emporter chez vous et découvrir ce que Dieu vous offre à travers la lecture de la Bible. Mais aussi, vous pouvez fréquenter assidûment une église qui enseigne la Bible. Vous pouvez aussi, tout simplement, discuter de ces choses en toute simplicité avec des croyants, avec des chrétiens de votre entourage. Ou peut-être que vous connaissez Dieu aujourd'hui, peut-être que vous le connaissez Dieu. Mais vous avez du mal à lui faire vraiment confiance au point de recevoir ce qu'il vous offre. Parce que Dieu est pour vous, dans ce cas, un peu comme le voisin du dessus. Vous le croisez de temps en temps dans l'ascenseur ou dans l'escalier ou dans le hall en bas de l'immeuble. Mais vous ne le connaissez pas vraiment. Vous savez qu'il est, vous savez qu'il existe. Mais vous ne le connaissez pas très bien. Et chaque fois que vous le croisez, il vous tend un gros cadeau. Mais vous n'êtes pas enclin à recevoir ce cadeau. D'ailleurs, c'est un peu bizarre de se faire offrir un cadeau par le voisin du dessus à chaque fois que vous le croisez dans l'escalier. C'est bizarre, vous avez raison de vous méfier. Ou peut-être qu'au bout du compte, vous avez fini par l'accepter, ce cadeau, mais vous ne l'avez pas ouvert. Parce que vous avez peur de ce qu'il y a dedans. C'est peut-être une bombe, quoi, je ne sais pas. Peut-être que c'est empoisonné. Peut-être que le voisin du dessus, c'est le schtroumpf farceur. Il vous a offert un cadeau qui va vous péter à la figure au moment où vous allez dénouer le nœud, délier le nœud. Dans ce cas, qu'est-ce que vous pouvez faire? Apprenez à connaître Dieu. Apprenez à connaître le voisin du dessus. Conversez avec lui quand vous le croisez. Parlez-lui dans la prière. Écoutez-le. Vous parlez par la lecture de la Bible. Et surtout, contemplez ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait. Quelque chose qu'il a fait qui est historique, objectif, que vous pouvez connaître en regardant dans l'histoire. Ce qu'il a fait à la croix, bien sûr. Ce qu'il a fait au moment où Jésus a versé son sang. Lui, le Fils unique de Dieu, plus précieux que l'univers, qui s'est offert en sacrifice, par amour pour vous. Ça s'est passé, mes amis. Ça s'est passé à peu près 2000 ans. Et vous pouvez en être certain que ça s'est passé. C'est un fait objectif, historique. Ça s'est passé dans l'espace, dans le temps. Regardez et voyez ce que le voisin du dessus a fait et qui garantit qu'il vous aime. Vous pouvez lui faire confiance. Il est entièrement digne de confiance. Il s'est offert lui-même pour vous. Et il ne va pas maintenant vous offrir un cadeau piégé. Ce serait absurde après ce qu'il a fait à la croix. Mais en ce qui concerne la plupart d'entre vous, je sais, parce que je vous connais bien, la plupart d'entre vous, je sais que vous faites confiance à Dieu déjà au point de recevoir ce qu'il vous offre. Et c'est pour cette raison, il faut que vous le sachiez aujourd'hui, que vous êtes en position idéale pour réussir votre vie. Non pas que vous en soyez capable par vos propres forces, mais parce que Dieu, dans sa grâce, par le moyen de la foi que vous avez placée en lui, Dieu vous a donné tout ce dont vous aviez besoin pour lui être agréable dans tous les domaines de votre vie. Il vous a pardonné, une fois pour toutes, toutes vos fautes, celles passées, celles d'aujourd'hui, celle de demain et d'après-demain, et de toute votre vie à venir. Il vous a pardonné. Il vous a rendu juste à ses yeux. Il vous a fait naître de nouveau spirituellement. La Bible dit que les croyants sont des nouvelles créatures en Jésus-Christ, c'est-à-dire par la foi en Jésus. Il vous a scellé du Saint-Esprit, c'est-à-dire de la troisième personne de la Trinité, qu'il a déversé dans votre vie, qui vit en vous et qui agit personnellement en vous et qui est disposé à mettre en œuvre toute la puissance de Dieu, la même puissance qui a créé l'univers, il veut la mettre en œuvre dans votre vie pour vous transformer à l'image de l'être humain parfait, celui qui a toutes les couleurs bien placées dans le tableau, celui qui est ce tableau de maître inégalé, à savoir Jésus-Christ. Et c'est ça qu'il est en train de faire en vous, si vous avez placé votre foi en Jésus. Et il le fait avec sa puissance, pas la vôtre. En raison de votre foi en Dieu, votre vie est dorénavant centrée sur Dieu. Elle est centrée sur ce que Dieu a fait pour vous, plutôt que centrée sur vous-même et sur vos propres performances, qui sont de toute façon vouées à l'échec. Et c'est Dieu lui-même qui va vous donner la motivation et la capacité et la patience et la détermination de le suivre et de lui faire confiance chaque jour, au point de faire ce qu'il vous dit et au point de recevoir ce qu'il vous offre, malgré les chutes quotidiennes, parce que vous êtes attaché à lui par un lien indéfectible qu'il ne va jamais vous laisser tomber. Alors vous voyez, d'après la Bible, le bonheur est possible, une vie réussie c'est possible, un travail épanouissant c'est possible, un mariage heureux c'est possible, une vie de famille heureuse c'est possible. Et je ne parle pas ici d'une vie dépourvue de difficultés. Je ne parle pas d'une vie, je ne parle pas d'un mariage ou d'une famille où il n'y aurait jamais de conflit. Je ne parle pas d'un conte de fées. Je ne parle pas de l'évangile de prospérité dont on entend parler de temps en temps. C'était ce faux évangile qui affirme que quand on fait vraiment confiance à Dieu, on deviendrait automatiquement riche et en bonne santé. Ça serait génial ça, parce que moi je pourrais l'avoir comme ça, mon chalet à la montagne. Fais confiance à Dieu, Alex. Réclame-le ce chalet à la montagne et cet écran plat. Mais c'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Cet évangile-là est un faux évangile. C'est un évangile centré sur l'homme et pas centré sur Dieu, n'est-ce pas? Je parle ici du vrai bonheur, celui qui est défini comme tel par Dieu lui-même, et dont Dieu est l'auteur. Je parle d'une vie où, en raison de notre foi en Dieu, on est par conséquent équipé moralement et spirituellement pour faire face à une réalité qui, oui, est parfois douloureuse et compliquée, la réalité de notre existence en tant qu'être humain. Je parle d'une espérance extraordinaire, une espérance certaine, en ce qui concerne le futur, en ce qui concerne la consolation ultime de toutes nos souffrances, une espérance certaine en ce qui concerne la gloire à venir pour tous ceux qui sont attachés à Jésus. Je parle bien sûr de la gloire à venir au paradis pour ceux qui sont attachés à Jésus par le moyen d'une foi personnelle et vivante. Et je parle par conséquent d'un changement radical de perspective sur les circonstances de la vie, quelles qu'elles soient, même si nous les jugeons, de notre point de vue, comme étant malheureuses ou désolantes. Alors, est-ce que vous croyez au bonheur? J'espère que oui. Comment est-ce que vous vous représentez ce bonheur? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous réussir votre vie? Comment comptez-vous vous y prendre pour la réussir, votre vie? Eh bien, le message de ce psaume a été simple. Le Dieu de la Bible est au centre d'une vie réussie. Le Dieu, et pas n'importe quel Dieu, bien sûr, le Dieu de la Bible est au centre d'une vie réussie. Vous voulez réussir votre vie, Dieu doit être en son centre. C'est-à-dire que notre vie doit être tout entière, conditionnée par la confiance que nous portons à Dieu. C'est lui qui en devient le maître et le conducteur, c'est lui qui définit les termes de notre bonheur, et c'est ce bonheur qui est notre bonheur véritable. Quel est le but principal de la vie de l'homme? C'est la première question du catéchisme de Westminster, un catéchisme protestant historique. Quel est le but principal de la vie de l'homme? Le but principal de la vie de l'homme est de glorifier Dieu, et de trouver, sous-entendu ainsi, de trouver ainsi en lui son bonheur éternel. Tel est le but de la vie de l'homme, glorifier Dieu et trouver en lui son bonheur éternel. Heureux quiconque craint l'Éternel et marche dans ses voies. C'était l'affirmation solennelle de ce psaume. Craindre l'Éternel, c'est donc lui faire confiance au point de faire ce qu'il nous dit dans sa parole et au point de recevoir ce qu'il nous offre en son Fils Jésus-Christ. Prions. Merci notre Dieu, notre Père, parce que tu es réellement digne de confiance. Et Seigneur, aide-nous à mieux te connaître au quotidien. à mieux t'écouter, nous parler dans ta parole, à mieux te faire confiance au point de faire ce que tu nous dis, et à te faire confiance au point de recevoir ce que tu nous offres en ton Fils Jésus-Christ. Aide-nous vraiment, s'il te plaît, parce que nous sommes si faibles. Aide-nous à porter notre regard sur Jésus, ton Fils, sur ce qu'il a fait pour nous. Aide-nous à lui être attachés de tout notre cœur. Amen.